Bonjour à toutes et à tous, Didier Delatte sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, et que je vous raconte en suivant un ordre alphabétique, un peu aléatoire, je l'avoue, au gré de l'actualité ou tout simplement de mes envies. Aujourd'hui, une histoire venue de la nuit des temps et des hommes. Une histoire que j'ai entièrement imaginée et rédigée. Bon, à partir de recherches minutieuses quand même. Une histoire qui raconte comment Saint-Prix, une petite commune du Val-d'Oise, toute proche de nos studios IDFM, comment Saint-Prix, qui s'appelait tout simplement Thor, il y a 1000 ans, est devenu Saint-Prix. Comme je vous le dis souvent, on ne s'interroge pas sur les choses les plus quotidiennes. Par exemple, le nom des villes. Bien souvent, on les prend comme telles, mais... Et leur histoire alors? Bien, c'est cette histoire que j'ai en grande partie imaginée pour Saint-Prix. Alors, même si la religion catholique, bien sûr, y joue un rôle prépondérant, n'y voyez aucun prosélytisme, s'il vous plaît. C'est juste l'envie d'écrire et de raconter une histoire. « 25 janvier de l'année 1272 » ou l'une de celles qui suivirent. Jean Massé fait son entrée dans le très paisible village de Thor. Thor, qui ne s'appelle pas encore Saint-Prix, et pour cause. Il boite Jean Massé. À ses côtés chemine son étrange compagnon, un compagnon baptisé Léonard. Une foule respectueuse se presse autour d'eux, Jean de Tours, le seigneur des lieux, en tête. Pourtant, nul ne se doute des épreuves que Jean Massé a dû traverser avant de planter enfin son bâton de pèlerin devant l'église. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui va s'en vanter. Les témoins de ses aventures, eh bien, ils demeurent à quelques dizaines de lieues seulement, mais ils prennent garde de ne plus penser à lui et depuis longtemps. L'arrivée de Jean va bouleverser la vie des habitants et jusqu'au nom même du village. Mais cela, personne ne le sait encore. Revenons au début de son aventure. Frère Jean Massé officie dans la paroisse de Courseulles-sur-Vionne. Mais depuis longtemps, le malheureux irrite son évêque. Vous savez pourquoi? Parce que Jean n'a pourtant rien d'un mauvais homme. Au contraire, il a simplement l'habitude de manifester une curiosité excessive, dirons-nous, pour tout ce qui existe. La moindre fourmi suscite son enthousiasme. Mais d'où vient-elle? Où se rend-elle ainsi affairée sans se laisser décourager par les obstacles? La plus anodine pièce de monnaie déclenche son intérêt. Mais à qui a-t-elle pu d'abord appartenir? Et qu'a-t-elle servi à échanger ou à acheter? Un voyageur traverse le village, Jean le harcèle de questions. « Frère, quelles sont donc tes origines et les raisons de ton périple et les rencontres que tu as effectuées ?» Il insiste toujours pour savoir ce qu'il y a au bout du chemin, selon son expression favorite. Pour lui, tout est sujet de passion et de curiosité. Sa soif de savoir l'emporte. Il en oublie régulièrement, figurez-vous, de transmettre à ses paroissiens les messages de l'évêque. Ses interrogations incessantes ont fini par lasser tous ceux qui l'approchaient. On fuit dès qu'on l'aperçoit. Même pendant la messe, il ne peut se contenir. Sa fâcheuse manie le pousse à interrompre ses serments pour interpeller publiquement les fidèles du haut de sa chair.
« Dis donc, Monnois, d'où venait le colporteur que j'ai aperçu à la porte de ta ferme l'autre matin? Et trois briciaux, pourquoi ton âne a-t-il bretté à trois reprises avant l'aube? Hé, hey, Baptiste, ta fille s'est-elle enfin décidée à épouser le Mathurin ?»
Alors, son église fut peu à peu désertée. Seuls quelques aïeules sourdes la fréquentent encore à l'heure des offices. L'évêque de Pontoise est informé de ce désastre. Intrigué, il se rend sur place pour mener son enquête. Il recueille tant de témoignages qu'il convoque sur le champ frère Jean et le chapitre sévèrement. Une fois sa colère épanchée, l'évêque décrète.
« Frère Jean, prions ensemble. Ah, que le ciel m'inspire de sages décisions te concernant. »
L'évêque retrouve sa sérénité dans le silence. Ce maladroit de Jean pourrait bien lui servir dans une petite affaire qui le tracasse depuis quelque temps. Après plusieurs minutes de profonde méditation, il annonce la pénitence à laquelle Jean devra se soumettre. Le malheureux frère quittera dès le lendemain son village et devra, sans ouvrir la bouche, marcher d'une traite jusqu'au prieuré noir de Thor, situé à une vingtaine de lieues à l'est de Pontoise. Il n'en ajoute pas davantage, connaissant à l'avance la question de Jean.
Mais pourquoi Thor ?
L'évêque esquisse un sourire et répond.
Ignores-tu que le seigneur Jean de Tours a décidé d'offrir à l'annexe de notre abbaye des reliques de notre cher Saint-Prix ? N'as-tu pas lu à tes paroissiens le message où je l'annonce moi-même ?
Oh, bien sûr, monseigneur.
S'empresse de répondre Jean, espérons ainsi masquer sa négligence. Il faut dire que, au cours de son enquête, l'évêque a trouvé son message couvert de poussière dans un recoin du presbytère. Il en a conclu à juste titre que Jean a tout simplement oublié d'en faire la lecture en chaire.
Je savais, mon fils, que tu ne pouvais avoir manqué d'informer les fidèles de ce fait de première importance. Nous connaissons bien le zèle avec lequel tu as coutume d'accomplir ta mission.
Frère Jean s'incline humblement. Il tente ainsi de dissimuler le rouge qui lui monte aux joues. Il craint par-dessus tout de nouvelles questions sur le sujet. L'évêque s'en aperçoit et s'amuse à le tourmenter. On lui a rapporté que déjà, dans ses jeunes années, au séminaire, Jean s'intéressait bien davantage à tout ce qui se passait sous ses yeux ou effleurait ses oreilles, bien davantage qu'à la vie des saints de l'Église.
Tu sais, Jean, on m'a vanté ton assiduité autrefois dans les études. Tu dois donc te rappeler la mort affreuse de Saint-Prix, qui fut évêque de Clermont au 7e siècle de notre ère.
Jean risque une réponse qui, d'après lui, a toutes les chances d'être exacte.
Ah, certes, monseigneur, les Romains se montrèrent si cruels avec nos pauvres frères, les premiers chrétiens.
Hélas, oui, les Romains. Mais, dans le cas de Saint-Prix, il s'agit plutôt de zélés serviteurs de notre Église, vois-tu ? Les parents d'un comte que notre bon évêque avait fait condamner pour rapt et calomnie.
Ah, monseigneur, les comtes d'Auvergne se sont parfois montrés de bien mauvais catholiques.
Encore une fois, tu as raison, mais celui dont nous parlons, vois-tu, était comte de Marseille.
Ah, monseigneur, certains comtes de Marseille ne valent pas mieux que ceux d'Auvergne.
S'il avait été plus attentif lors de ses études, Jean aurait su qu'en 676, une violente querelle opposa Saint-Prix, évêque de Clermont, au comte Hector de Marseille. Saint-Prix avait excommunié le comte pour un rapt qu'il avait commis. Le comte porta alors des accusations mensongères contre l'évêque. Le roi les confronta l'un à l'autre et la vérité fut établie. Le comte fut condamné à avoir la tête tranchée. Par vengeance, sa famille fit tendre une embuscade à Saint-Prix alors qu'il revenait à Clermont, accompagné de l'abbé Damarin et d'un comparse nommé Élide. Les soldats tuèrent l'abbé par erreur, Saint-Prix se fit alors connaître et fut mis à mort à son tour. L'évêque renonce à rappeler à Saint-Jean que le corps de Saint-Prix a été, un siècle plus tard, retrouvé en entier et rendu vénérable à toute la France. Il regarde le pauvre prêtre avec indulgence. Ah, pour ça non, il n'est pas méchant. Mais si la Providence pouvait enfin lui apprendre à tenir sa langue. Justement, la Providence allait lui permettre d'assouvir une petite vengeance personnelle. L'évêque n'aimait guère ce Jean de Tours, ce seigneur qui tentait de se rendre populaire en offrant à son village des restes du saint, dont lui, l'évêque, était jusqu'à présent le principal thuriféraire dans la région. Il ne déplairait pas à l'évêque d'exaspérer ce puissant et hautain personnage. Charger frère Jean d'acheminer ses reliques entraînerait assurément un retard de livraison nuisible au prestige de ce fameux Jean de Tours, templier qu'il n'avait pas en odeur de sainteté.
Tu veux d'abord te rendre à l'abbaye Saint-Martin à Pontoise. Demande que l'on t'attache sur le dos la châsse qui renferme les reliques de notre vénéré Saint-Prix. Puis, sans t'arrêter un seul instant, et marche sans prononcer le moindre mot. Et Jean compte sur notre saint pour te surveiller de près à ce sujet. »
Et l'évêque accompagne sa menace en pointant son index vers le ciel. Jean baisse la tête, comme s'il avait déjà enfreint l'interdiction.
« Afin de t'éviter la tentation de parler, tu contourneras toute zone habitée. Emprunte l'Oise et les trois forêts. Dieu finira bien par placer sur ton chemin une âme à convertir. Alors seulement, reprends la parole pour ramener sur le chemin de notre Seigneur ce pécheur égaré. Quand tu le jugeras prêt, baptise-le, puis marchez ensemble jusqu'à Thor. Arrête-toi alors dans le village. » Remets tes reliques au Seigneur Jean de Thor et consacre ta nouvelle paroisse au culte de Saint-Prix. »
Frère Jean semble se tasser sur lui-même, sans prononcer le moindre mot. C'est ce qu'il avait principalement retenu du discours de son supérieur. La perspective d'une si pénible pénitence l'épouvante. Cependant, il s'incline profondément, se mord les lèvres afin de ne poser aucune question. Déjà peut-être sur la voie de la rémission, il devine que toute parole de sa part alourdirait son sort. C'est donc ainsi que Jean reçut l'ordre de marcher sans parler. Le lendemain, le pauvre prêtre quitte pour la dernière fois son cher Courseul, le cœur gros, mais bien décidé à racheter ses fautes. Malheureusement pour lui, on le connaît que trop dans la région. Ceux qu'il a exaspérés par ses discours exaltés l'attendent au bord des routes pour se moquer de lui. On lui pose toutes sortes de questions pour l'inciter à la récidive. Quant aux mécréants, ils évitent soigneusement de croiser son chemin. Seules quelques bonnes âmes charitables l'encouragent et lui offrent un verre de vin chaud pour l'aider à supporter les premières gelées de novembre. Vers midi, Jean parvient à Pontoise, dont les murailles dominent fièrement l'Oise. La ville connaît une effervescence exceptionnelle en raison de la foire. 3 jours durant, à l'occasion de la Saint-Martin, la cité vit au rythme du marché et des fêtes de rue. Les paysans en profitent pour renouveler les baux des fermages. Mêlés aux négociants de toutes sortes, les moines assurent une partie de leurs revenus en vendant du hareng grillé et le célèbre Jinglais, le vin de Pontoise. À la Saint-Martin, selon le dicton, il faut goûter le vin des moines. L'entrée dans la saison froide, lourde de peur et de superstition, justifie cette frénésie d'abondance. Jean ne peut résister à la curiosité. Il s'attarde, observe tout, s'enthousiasme des spectacles, hume les charcuteries et les fromages, se réjouit des querelles qui éclatent entre les batteleurs et les camelots. Mais Jean, malgré ses sens en émoi, malgré la tentation, Jean ne dit rien, ne goûte rien, ne dit pas un mot. À la fin de la journée, il parvient à l'abbaye. Fondé en 1090, le monastère bénédictin se dresse sur le plateau Saint-Martin qui lui a donné son nom. L'abbé reçoit correctement le voyageur. Il lui offre le gîte et le couvert. Il l'installe dans une cellule propre et lumineuse. Mais il s'arrange pour ne pas demeurer longtemps à sa présence. Par malheur ou par tentation, on peut craindre que Jean ne se mette à poser toutes sortes de questions malgré les ordres de son évêque. Resté seul, Jean ne fut pas long à remarquer un parchemin sous le rebord de la fenêtre. Il s'agit d'un mémoire consacré à Saint Gaultier de Pontoise. Ce professeur de philosophie et de rhétorique avait été nommé abbé fondateur du monastère Saint-Martin par le roi Philippe Ier. Ce roi qui aimait résider à Pontoise et qui, en 1069, avait accordé à la communauté le titre d'abbaye royale. Mais Gaultier aspirait à la solitude. Il quitta une première fois son abbaye pour adopter la vie austère des moines à Cluny. Puis, il séjourna sur une île solitaire de la Loire, près de Tours. Mais on le contraignit à rejoindre son abbaye. Gautier n'hésita pas alors à se rendre à Rome pour demander à Grégoire VII de le relever de sa fonction. Sommé par le pape de continuer à utiliser les talents qu'il avait reçus de Dieu, il se résigna à demeurer à Pontoise et à exercer sa charge. Les démêlés de Gautier avec les autorités ecclésiastiques intéressent vivement frère Jean. Un parallèle s'établit dans son esprit entre la vie du saint et son propre sort à lui. Il en conçoit une certaine fierté proche de la vanité. Son indiscipline avait valu une auréole à l'abbé. Alors lui aussi peut-être. Mais la suite de l'histoire réfrène son exaltation. Effectivement, plus tard, Gautier dénonça la vie dissolue des prêtres. Cette mise en cause lui valut d'être battu et emprisonné. Enfin libéré, Gautier continua à mener une vie ascétique, passant ses nuits à prier. Il fonda un couvent en l'honneur de Marie de Berthaucourt et mourut un vendredi saint en 1095. Tout bien pesé, Jean juge préférable de suivre à la lettre les prescriptions de son évêque. Ce long débat intérieur, ajouté à la fin, le fait tomber dans un profond sommeil. Bien avant l'aube, aux matines sonnantes, un moine dont le visage est caché par la capuche de sa robe de bure vient le réveiller. Jean croit qu'on le convie à assister à la première messe du jour. Il n'en est rien. Sans même lui offrir un quignon de pain, on le conduit à la chapelle où tout a été préparé à son intention. On l'équipe de la chasse qui comporte les reliques de Saint-Prix. C'est ce qu'avait prescrit l'évêque. Puis sans un mot, on lui désigne le chemin. Alors, le malheureux part, la tête basse, le dos courbé. Sa charge n'est pourtant guère pesante, mais la honte et le désespoir l'accablent au-delà du raisonnable. Jean parvient rapidement au bord de l'Oise. Grâce à l'insigne de son ordre, qu'on a tracé à l'avant de l'embarcation, il repère la barque qu'on avait amarrée à son intention. Il dénoue la corde qui la relie à la rive. Il saisit fermement la lourde rame. Il se met à remonter le courant en direction du nord-est. Passant au large d'Éragny, Saint-Ouen-l'Aumône, Auvers, Champagne, il atteint enfin Noisy-sur-Oise, terme de sa première étape. Épuisé par l'effort et le manque de nourriture, il s'allonge au fond de la barque et s'endort profondément. Il est réveillé au petit matin par une première averse. Au soleil de la veille a succédé une pluie continue qui vide les routes et les bourgs de toute présence humaine. Il grelotte, et toujours tête basse, il rejoint d'un pas pressé l'orée de la forêt de Carnel. Sous les arbres serrés, il trouve un abri précaire, mais réconfortant. Outre la pluie et le froid, son estomac vide semble lui adresser des reproches. Mais son ventre n'est pas le seul à crier famine, sa langue aussi a faim. Faim de parler à quelqu'un. Privé de ses chères questions, il jeûne depuis la veille. Ah, il songe plein d'amertume.
Mes fautes sont décidément bien plus graves que je ne l'avais imaginé pour mériter une telle épreuve.
Il espère rencontrer très vite l'être de peu de foi évoqué par l'évêque. Cette âme perdue qu'il ne manquera pas de convertir. Gardant une lueur d'espoir au cœur, il marche jusqu'à la nuit, sans que se réalise son vœu, et toujours sans avoir dit un seul mot à âme qui vive depuis son départ. C'est au cours de cette journée que ses jambes se mettent à le faire souffrir, surtout la droite. Il traverse la première des trois forêts dont avait parlé l'évêque, et le lendemain, toujours sous une pluie battante, il gagne la forêt de l'Île-Adam, où il s'accorde un peu de repos qu'il passe à prier une nouvelle fois Saint-Prix de mettre fin à son supplice. Le matin suivant, le ciel se montre plus clément. Il ne pleut plus et le soleil semble enfin décidé à forcer la barrière des nuages. Jean quitte la deuxième forêt et s'engage en direction de Bailly-en-France qu'il contourne et parvint jusqu'à Bouffémont vers midi. Ceux qu'il croise regardent avec méfiance et mépris ce vagabond crotté à l'habit de prêtre déchiré. La douleur de sa jambe droite s'accentue avec chaque heure qui passe. Il veut l'ignorer en prenant connaissance du paysage qui s'offre à ses yeux. Devant lui s'étend la forêt de Montmorency. Jean s'y engage résolument. Il ignore que nul, à l'exception de quelques chasseurs aguerris venus parfois des limites de la région, nul n'ose s'aventurer depuis plus de 10 ans dans le secteur où il vient de pénétrer. Soudain, surgit devant lui un loup d'une taille exceptionnelle. Cette bête sauvage était terriblement affamée, privée qu'elle était depuis longtemps d'une nourriture suffisante. Un homme entier suffirait à peine à le rassasier jusqu'au soir. Mais, pour frère Jean, ce loup représente néanmoins une occasion à ne laisser filer sous aucun prétexte. Étrangement, Jean ne ressent aucune crainte devant le monstre. Pourtant, ses crocs luisent à travers les babines d'où coulent des filets de bave. Mais la curiosité de Jean l'emporte sur la peur que tout autre que lui aurait éprouvée. Il éclate même d'un rire, un rire qui aurait fait s'arrêter le chant des oiseaux si la moindre volatille de cette sinistre forêt n'avait déjà poussé sa dernière note au fond de l'estomac toujours gargouillant de cire loup. Étonné par ce rire, qui tonne comme l'éboulement d'un pan de montagne, le loup demeure cloué au sol, comme si ses pattes s'étaient transformées en plomb. Jean s'écrie
« Mais quelle bête magnifique tu fais! Tu n'as rien d'un loup ordinaire, toi! Ah, j'imagine que tu as dû combattre bien des chefs de meute. Et combien de dogues ont dû succomber sous tes mâchoires puissantes? Ah, qu'est-ce que j'aimerais connaître ton histoire !»
Après un bref instant d'hésitation, le loup tente de reprendre l'initiative. Il retrousse davantage ses babines et pousse un hurlement terrifiant. Mais Jean l'interpelle joyeusement.
« Bête ignare, crois-tu pouvoir apaiser la faim qui te fait souffrir en engloutissant, sans y réfléchir, les quelques livres d'os et de chair dont tu me crois constitué ?»
Et il rit de nouveau, et les oreilles du loup s'abaissent. L'animal ne comprend rien, bien entendu, à ses paroles. Il sent cependant qu'il y a là quelque phénomène anormal. Mais jusqu'à présent, il n'a eu affaire qu'à des proies naturellement stupides ou rendues muettes par la terreur, des proies qui se laissaient dévorer sans faire d'histoire. Jean poursuit.
« Ah, mon cher loup, le ciel te met sur ma route, vois-tu? Nul plus que toi ne mérite de recevoir la révélation des bienfaits de notre sainte religion. »
Et du bout de son bâton, Jean touche le mufle du loup. Aussitôt, la bête féroce ressent une vive chaleur dans le crâne. Ses yeux perdent leur éclat cruel et brillent d'une lueur de bonté qui n'échappe pas au prêtre.
Désormais, mon cher loup, tu comprends le langage universel que notre Seigneur a donné à ces chères créatures dont tu fais partie. Secoue 3 fois la tête pour me montrer que je ne me trompe pas.
Le loup secoua 3 fois la tête.
Eh bien, mon frère, sois le bienvenu parmi la communauté des chrétiens. Mais je vois que la faim tenaille toujours tes entrailles. Je te comprends, j'ai moi-même une vraie faim de loup.
Et il rit de sa propre plaisanterie.
Tu meurs d'envie de me dévorer? Rien de plus naturel, ne t'inquiète pas. Mais je veux te démontrer combien cela te sera inutile. Mange-moi donc, nous en reparlerons après.
Sire Loup perçoit tout à fait la signification de cette dernière phrase. Alors, il bondit sur le prêtre, l'engloutit d'une seule bouchée. Il en éprouve d'abord une vive satisfaction. Depuis des années, il n'avait eu le ventre aussi plein. Mais, alors que, repu et apaisé, il allait s'assoupir afin de digérer ce festin miraculeux, son estomac se met de nouveau à gargouiller et à se tordre comme s'il n'avait rien avalé du tout. L'éternelle torture de la faim hérisse de nouveau son poil et, de nouveau, la bave coule de ses babines. De rage, l'animal s'assoit sur son séant et pousse un long hurlement de désespoir. Et alors qu'il ouvre la gueule toute grande pour hurler, le prêtre en profite pour jaillir de la panse obscure où il n'a séjourné que quelques minutes.
« Ne te l'avais-je pas prédit ? Remplir ton ventre ne te sera d'aucun secours pour trouver la paix et soulager ton existence. Écoute plutôt ce que j'ai à t'apprendre. »
Et frère Jean se met à raconter l'histoire de ce fils envoyé par Dieu, son père, sur notre terre. Au fur et à mesure qu'il raconte, le loup sent une bienheureuse félicité l'envahir. Il ne songe plus du tout à sa faim. J'en raconte si longtemps, que la nuit est tombée depuis des heures lorsqu'il achève son récit. Tous deux sont épuisés, l'homme d'avoir tant parlé, le loup d'avoir tant écouté. Alors, ils s'endorment serrés l'un contre l'autre. Le lendemain, ni aucun des jours suivants, ni plus jamais, le loup ne connaîtra la faim. Malgré le froid intense de l'hiver, ils ont chaud à l'âme et au cœur. Souvent, les deux inséparables compagnons passent la nuit à évoquer la Sainte Bible ou la vie des martyrs de la foi. Alors, Jean donne libre cours à son enthousiasme. Quant au loup, il se montre plus intelligent et plus sensible que beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi, après avoir longuement réfléchi à la question, Jean finit par proposer au loup de le baptiser. Il n'ignore pas qu'il s'agit là d'une initiative contraire aux lois de l'Église, qui s'interdit de voir une âme dans les animaux. Les doctes pères considéraient déjà que les femmes en étaient dépourvues, alors pensez donc à un loup. Cependant, Jean se sent dans le droit chemin, et rien ne le fait renoncer à son projet. La cérémonie a lieu, le soir de Noël, dans une simple clairière, et Jean décide de nommer le loup Léonard. Il devine au regard du loup qu'il doit lui expliquer le choix de ce nom. Ce nom, cette histoire, Léonard, Saint Léonard, l'une des seules histoires qu'il a retenues de ses études discrètes au séminaire. Mais une histoire qu'il a justement bien fait de retenir.
Écoute bien, frère loup, voici une belle histoire. Et tu comprendras pourquoi c'est aussi ton histoire. Il y a plus de 1000 ans, Léonard était un grand seigneur, vois-tu ? Un noble franc qui aurait vécu à la cour de Clovis. Sache que Clovis fut le premier roi chrétien de France. Par la suite, Léonard demanda à Clovis de lui octroyer personnellement le droit de visiter les prisonniers et de libérer ceux qu'il jugerait dignes de l'être. C'est ainsi que Léonard a libéré un grand nombre de prisonniers. Tu vois, frère loup, moi aussi je viens de te libérer des chaînes de la sauvagerie qui faisaient de toi le prisonnier de tes instincts meurtriers. Désormais, tu marcheras avec moi, libre, heureux et serein. Ensemble, nous apporterons soulagement, protection et espoir à tous ceux qui souffrent.
Ainsi s'achève la première partie de notre rendez-vous compte consacré à l'histoire de frère Jean de Saint-Prix. Une histoire venue de la nuit des temps, même si je l'ai en grande partie inventée. Une histoire dont je vous raconterai la fin, encore plus stupéfiante, la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delatte sur IDFM. La semaine prochaine, même heure, même adresse. En attendant, voici Sur le terrain, l'émission qui laisse la parole aux Valoisiens et qui présente tous les événements de notre département sur IDFM Radio, évidemment.